I don't know nothing about you, nothing about you, but you know all about me. Smiling with my gold teeth, but I'm not happy. No tracks that come in and come out.
My name is Alia. I'm at CKOT in Montreal, 90.3 FM. Keep on rocking in the free world.
Avec le concours Gagner à être vacciné, votre vaccination contre la COVID-19 pourrait vous rapporter gros. Chaque vendredi doux, un lot de 150 000 $ et deux bourses d'études de 10 000 $ sont à gagner. Et le 3 septembre, 16 bourses d'études de 20 000 $ et un gros lot d'un million de $ seront tirés parmi les doubles vaccinés. Inscrivez-vous dès maintenant au concours Gagner à être vacciné au québec.ca/concours-vaccination. Plus vite vous êtes vacciné, plus vite vous pouvez participer. Un message du gouvernement du Québec.
The following is a previously broadcast program.
Dignité Noire, présenté par M.By Hadji, M.By Riway. Au sommaire, cette semaine.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au magazine Dignité Noire, le magazine consacré aux communautés noires du Québec, bien sûr, de la ville de Québec, du Québec, du Canada et de partout dans le monde, puisque nous sommes regardés, nous sommes suivis, regardés à travers la page Facebook et sur YouTube, etc. Alors, nous sommes le 1er mars 2021. Je m'appelle Mbaï, je suis avec vous jusqu'à 20h et j'espère que vous vous portez bien, que vous avez bien passé le mois de l'histoire des Noirs. Ben, ce n'est qu'un début. Le mois est terminé, mais ce n'est qu'un début. Il faut continuer à parler de la question noire, des conditions de vie des Noirs, du racisme anti-noir, etc. Et on va le faire durant ce mois, à travers la semaine d'action contre le racisme qui vient le 21 octobre. Et nous, on le fait 12 mois sur 12, Dignité Noire. Alors ce soir, je ne suis pas en compagnie de Brice, comme j'ai l'habitude de vous le dire. L'émission est enregistrée, est pré-enregistrée et diffusée lundi en raison du couvre-feu. Je rappelle donc que vous pouvez nous suivre sur les ondes 88.3 FM, mais aussi en direct sur la page Facebook Dignité Noire CKIA FM. Si vous manquez nos émissions, ce n'est pas grave. Elles sont toutes archivées en balado sur www.ckiafm.org. Alors aujourd'hui, au menu, nous aurons bien sûr la rubrique Onde de culture de Vianney qui reçoit aujourd'hui Jimmy Kaba. Jimmy Kaba, c'est un célèbre guitariste d'un célèbre groupe musical congolais je vais vous donner le nom tout de suite là, du groupe. C'est le groupe Zaiko Langalanga, c'est ça, je me rappelle. Zaiko Langalanga, c'est un célèbre guitariste du groupe Zaiko Langalanga qui va sortir son album bientôt. Et donc, il nous donne l'exclusivité et on va écouter quelques-uns de son nouvel album, quelques titres de son nouvel album aussi tantôt. Mais avant ça, je reçois Christian qui a donné une belle conférence. Moi, j'ai écouté ça avant-hier, une belle conférence dans le cadre de l'Observatoire sur les discriminations, sur le profilage, je crois. Puis j'ai beaucoup aimé la présentation qui portait sur la justice raciale. Et puis j'ai demandé à Christian de nous en parler, de vulgariser ce concept de justice sociale à nos auditeurs et auditrices. Alors j'ai le plaisir d'accueillir donc sur le plateau mon cher Christian Alou. Bonjour Christian.
Bonjour Monsieur Mbaï, merci de m'accueillir dans vos locaux, si je peux m'exprimer ainsi.
Oui, c'est ça, je suis dans mon bureau. Alors, toi, tu étais étudiant à Laval avant d'aller à Ottawa. Tu es doctorant, tu fais un doctorat en droit, je crois, à l'Université d'Ottawa. Mais tu étais ici à l'Université Laval avant. Donc, tu connais bien la ville de Québec.
Ben oui, bien oui, je suis chez moi. Mais en fait, j'ai fait ma maîtrise à l'Université Laval. Ouais. Donc, c'est là où j'ai eu mon grade de maître. Et ensuite, je me suis déplacé sur l'Université d'Ottawa où je fais un doctorat en ce qu'on appelle ici un PhD, c'est philosophie du droit.
Parfait. Donc, c'est à Québec que je t'ai connu aussi. Alors, donc, là, tu as fait une présentation dans le cadre du colloque de l'Observatoire sur les profilages raciaux.
C'est l'Observatoire des profilages.
Voilà, l'Observatoire des profilages, c'est à l'université, c'est à l'UQAM, ça, ou à l'Université de Montréal? C'est où?
Non, en fait, c'est un observatoire de toute la province de Québec, et donc qui rassemble des étudiants de partout et qui traite de toutes les questions liées au profilage.
Parfait. Bah moi, j'étais tombé sur ça. J'étais tombé sur ta présentation qui était très bien, et puis j'ai dit je vais t'inviter pour que tu nous vulgarises ce concept de justice sociale. Fait qu'on va commencer par la question basique. C'est quoi la justice sociale? Quelles sont ses caractéristiques dans le fond?
La justice raciale.
Ah oui, la justice raciale, pardon. La justice sociale, j'en connais.
Effectivement, c'est une forme de justice.
Exactement, c'est un autre concept, là, c'est une autre forme maintenant. On ne parle pas de la justice sociale là, qui est bien connue, là, mais on parle de la justice raciale, autant pour moi. Donc, c'est quoi la justice raciale et ses caractéristiques principales?
Je pense que, M. Mbaye, je n'exagère pas si je dis merci à tout ce que vous faites jusqu'ici. Rassurez-vous, votre combat n'est pas vain et ça prendra du temps, mais ça portera ses fruits. Merci. Alors, si nous revenons à l'essentiel, alors la justice raciale, c'est une pensée philosophique de la notion de justice elle-même. C'est-à-dire que c'est se poser la question, qu'est-ce que la justice? Donc, c'est une pensée philosophique de la justice et qui porte un jugement de valeur sur les fondements même de la justice, c'est-à-dire ses manifestations, ses limites, pour en fait proposer des solutions. Alors, c'est une pensée philosophique de la notion de justice qui est tournée essentiellement vers les solutions. Ceci peut paraître paradoxal, mais le droit n'a pas encore épuisé la question de la justice. C'est-à-dire, quand je dis le droit, je parle du droit nouveau qui reconnaît l'existence d'autres manières de penser la justice. Parce que depuis les débuts, le droit a été enseigné comme unique, universel, et qu'il faut imposer aux autres. Donc l'évaluation de l'efficacité de la justice moderne est basée sur l'ordre et la loi. C'est-à-dire à partir du moment où la justice soit bonne ou mauvaise, on s'en fout, à partir du moment où on arrive avec cette justice à maintenir l'ordre et la loi. La loi. Donc, c'est des mots et des concepts que vous retrouverez souvent dans les allocutions, dans les discours des hommes politiques. Et dès que vous entendez l'ordre, la loi, vous savez à peu près à quel genre de courant vous avez affaire. Donc, en expliquant ceci, c'est juste pour dire que à partir du moment où on admet le pluralisme juridique qui, comme je viens de le dire, c'est une manière d'accepter qu'il y a d'autres formes de pensée de la justice et que la justice n'est pas unique, n'est pas occidentale. Mais à partir de ce moment, on autorise l'interdisciplinarité. Et donc, c'est pour cette raison que vous entendez souvent, maintenant, on parle plus d'intégration, d'inclusion, de diversité, que d'assimilation et non d'intégration à sens unique. C'est toutes ces conséquences qui sont là. Donc, pour faire simple, la justice raciale, c'est une pensée philosophique tournée essentiellement vers les solutions qui sont basées non sur c'est-à-dire, il ne faut pas se contenter du vécu personnel, du profité, mais aller au-delà de cette expérience douloureuse pour faire de l'éducation, de la recherche, l'apprentissage pour enfin proposer des modèles de société qui sont plus justes et qui ne sont pas oppressives, exclusives et discriminatoires.
Pour nos auditeurs là, qui ne sont pas calés en philosophie de la justice comme toi, là, les auditeurs, les gens lambda qui nous écoutent, est-ce que tu peux leur parler concrètement là, comment ça se manifeste cette justice raciale et quelles sont ses formes concrètes là, qu'on peut regarder dans certaines juridictions? Est-ce que tu peux nous en parler quelque peu?
Oui, bien sûr. Alors, les formes sont nombreuses. Il y a plusieurs courants dans la justice, dans la littérature sur la justice raciale. On n'a pas le temps de faire peut-être l'historique, mais l'historique, c'est vraiment à la fin des lois ségrégationnistes aux États-Unis. C'est à partir de là que les gens ont commencé par penser à une forme. Quelle est la forme de justice qui doit être appliquée pour redresser, okay, l'injustice raciale qui a été longtemps, pendant des siècles, affligée aux personnes racisées, que sont les Noirs. Donc les gens ont commencé par penser à ça. Parce qu'avant ça, on était dans une dynamique de l'oppresseur qui est un sauveur, qui est venu nous civiliser. Donc on était content d'être esclave, on était content d'être opprimé. Mais à partir de la fin, okay, des lois ségrégationnistes qu'on appelait les fameuses Jim Crow Laws, on commence par penser comment est-ce qu'il faut redresser la barre. Donc il y a essentiellement ce que moi j'appelle deux formes de justice raciale. La première forme, elle est historique, c'est-à-dire qu'il faut ramener, il faut opérer ce qu'on appelle un correctif historique, okay, à l'histoire qui a été racontée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il faut raconter l'histoire qui est non seulement du regard de l'oppresseur, mais aussi du gibier, quoi. C'est-à-dire raconter l'histoire des faits. Mmh. Et non pas juste raconter, enseigner dans les universités l'histoire de l'oppresseur et du colonisateur. Ça, c'est le premier correctif. Et ce travail-là, il est gigantesque. Il doit se faire pas seulement en créant un cours ou une formation dans les universités ou dans les cégeps, là. C'est qu'il faut revoir tout le matériel pédagogique qui est utilisé dans nos universités, dans nos établissements scolaires. Et c'est seulement à partir de ce moment qu'on peut finir avec les stéréotypes du noir criminel, du noir violeur, du noir incapable, du noir qui est tressé, donc est un membre de gang, ou parce qu'il est tatoué, est un membre de gang.
Mais je me permets de relancer ici, c'est quand même énorme ce que tu dis là. On va rester sur la première forme, c'est-à-dire c'est un chantier énorme. J'imagine qu'il y a beaucoup de résistance à cela. Parce oui, que revoir le contenu et tout, je me dis c'est...
Oui, c'est un chantier énorme, mais c'est ça. Il faut comprendre que les personnes qui ont pensé la notion d'hiérarchisation des races... Le concept, le code noir, ce n'est pas des citoyens lambda. Hein. C'est pas des
C'est des élites. Hein.
C'est des élites, c'est des intellectuels qui ont pris le temps de théoriser, de réfléchir aux concepts, aux principes et aux règles. Et donc, penser que sortir aujourd'hui en 2021 et dire c'est de l'injustice, il faut mettre fin au racisme, c'est pas bon, c'est de l'injustice, ça suffit. Non, ça ne suffit pas parce que pendant des siècles, on a enseigné aux gens que le racisme était une bonne chose. Et c'est ça qu'il faut dire aux nouvelles générations aujourd'hui. C'est-à-dire que le racisme a été enseigné pendant des siècles comme étant une vertu. Mmh. Okay. Donc, quand tu dis à quelqu'un qu'il est raciste, mais au fait, lui, de son côté, il est content que tu lui dises qu'il est raciste.
Ouais, pendant longtemps, c'est ça. Les gens ont cru à ça. Là. À cet suprémacisme blanc. C'est bon d'être blanc et supérieur aux autres.
Voilà. Ouais. Voilà. Donc, quand on se place du côté des personnes racisées, il faut aussi arriver à se placer du côté de l'oppresseur ou du colonisateur pour savoir comment est-ce qu'il pense la chose. Donc pour lui, c'est une bonne chose d'être raciste. Donc venant dénoncer le racisme, c'est lui, c'est bien, ça a fait avancer les choses, mais ça ne change pas la position de quelqu'un, ça peut changer son attitude.
Ouais.
Parce qu'on a peur de perdre son emploi ou bon voilà, on ne veut pas faire des vagues, mais dans son fond intérieur, ça ne change pas grand-chose, il reste qui il est.
C'est important ce que tu dis, parce que je me dis c'est important pour les militants antiracistes, noirs ou blancs, de comprendre ce que tu dis là. C'est-à-dire, il ne suffit pas juste de dénoncer l'injustice raciale. C'est profond, c'est sérieux et il faut travailler concrètement pour défaire ces schèmes raciaux là.
Effectivement.
Et donc, je me dis... T'sais, souvent aujourd'hui, avec le mouvement Black Lives Matter, tout le monde est devenu vertueux, hein, on dénonce ça, machin, truc, et puis on reste chez soi. Le défi, et souvent moi je le dis dans les communautés noires que je connais, le défi, c'est le défi d'organisation. Il faut s'organiser pour défaire ça. Dénoncer, c'est beau, là, mais il faut s'organiser, se mettre ensemble pour lutter parce que, comme tu le dis, là, les gens ont pris 5 siècles pour penser tout ça, là. Il faut pas croire qu'en 5 ans, on va défaire ce qui a été construit en 5 siècles. Tu sais.
Effectivement. Et donc, c'est ce travail que nous essayons de faire en tant que chercheurs et scientifiques, c'est de faire un travail au niveau des chercheurs, c'est-à-dire que nous menons des débats entre scientifiques, entre chercheurs, contradictoires, pour essayer de tester ces idées faussement établies et faussement reçues sur les noirs. C'est-à-dire que lorsqu'on me dit, par exemple, qu'une personne noire est incapable, je dis « Ok, je suis d'accord, mais si on teste tout de suite dans la société, on peut voir des personnes noires aussi qui ont contribué à faire des choses. Donc, ce que vous dites, ce n'est pas absolu. On peut relativiser. Ouais. Et quand on commence par relativiser, on se dit, bon, apparemment, la criminalité n'est pas le monopole des personnes racisées. On dirait que dans les communautés blanches aussi, il y a des criminels.
Et à Montréal, c'est ça ce qui arrive à Montréal. Hein. Les brigades anti-gang, c'est les brigades anti-noires, dans le fond.
Voilà, voilà. Et c'est parce que, justement, il y a eu toutes ces stéréotypes, ces biais qui sont en chacun de nous, quelque part, qui font qu'on confond ce qu'on appelle profilage racial et profilage criminel. C'est-à-dire qu'on confond profilage criminel et profilage racial, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc, si je reviens à la forme que prend la justice raciale, c'est ce correctif historique qu'il faut apporter au niveau pédagogique. Mais il y a dans la littérature, il y en a...
Tu parlais de la deuxième forme aussi, là. Tu peux nous en dire un mot, la deuxième forme?
Oui, oui. Mais dans la première forme, il y a ce côté historique, mais il y a aussi l'idée de réparation. L'idée de réparation des préjudices subis pendant l'esclavage, famille des esclaves, qui passe des fois par juste des reconnaissances symboliques, comme l'idée d'une stèle dans la cour du séminaire de Québec.
En l'honneur d'Olivier Lejeune, je pense que Webster s'est beaucoup battu. Donc on érige une stèle en l'honneur d'Olivier Lejeune, qui est le premier Africain esclave ici à Québec en 1629. Donc ça va se faire en mai.
Effectivement, donc c'est une forme, c'est dans la première forme de manifestation de la justice raciale, c'est-à-dire qu'on redresse l'image elle est importante. Okay. Donc il y a les réparations, il y a la dimension pédagogique, mais l'autre forme c'est aujourd'hui, c'est-à-dire que notre justice aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe avec ça? Quand on a fini de se mettre d'accord sur l'historiographie qui était biaisée, c'est de dire que la justice telle qu'elle est aujourd'hui, elle est basée essentiellement sur ce qu'on appelle l'égalité mathématique. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on est juste parce qu'on met tout le monde sur le même pied d'égalité. Mmh. En réalité, en mettant tout le monde sur le même pied d'égalité, on crée de l'injustice parce que tout simplement, on n'a pas les mêmes capacités, on n'a pas les mêmes aptitudes. C'est comme prendre une femme et un homme et mettre sur la même ligne pour dire courir 100 mètres.
On ne part pas de la même... du même point de départ. Quoi. Il y en a qui sont en avance. Il y en a qui sont en avance depuis 5 siècles.
Voilà.
On nous dit d'aller au même rythme qu'eux, c'est pas possible.
Voilà, voilà. Donc, il faut reconnaître ça et parler plus d'équité et non d'égalité mathématique. Donc, la justice aujourd'hui doit se penser en termes d'équité pour que les lois et les mécanismes qui nous gouvernent ne nous priment pas, n'excluent pas, mais plutôt incluent, ok, et rassemble. Parce que le législateur qui fait la loi, il s'attend à ce qu'il y ait de l'égalité, okay, de traitement devant la loi. Mais lorsque cette loi est appliquée, il se trouve qu'il y a des discriminations. Alors, en tant que juriste, c'est ce que moi j'apporte dans cette lecture de la justice raciale, c'est qu'avec mon bagage de juriste, avec le droit international africain, le droit international des droits de l'homme, et mes connaissances de ce que c'est que la justice en Afrique, qui est essentiellement basée sur la conciliation des incompatibilités, des oppositions, et non forcément la hiérarchisation, moi, j'essaie maintenant de proposer, OK, une mise en commun. D'abord, identifier quels sont ces biais-là. Et le premier biais dans notre justice moderne aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en droit le pouvoir discrétionnaire.
Du juge ou de...
Du juge, du policier, de toute autorité investie du pouvoir public. C'est-à-dire que toute autorité investie du pouvoir public a une marge de manœuvre dans sa mission de service public. Et ce pouvoir discrétionnaire, à la base, c'est pour, par exemple, permettre au juge, dans l'application et dans l'interprétation de la loi, de s'assurer que la loi ne produit pas des effets contraires aux objectifs. Mais si nous prenons le cas de la police ou d'un policier, le fait qu'il y a eu 500 ans de négation de l'humanité chez les personnes noires, d'indignation, et qu'on a normalisé le fait que la personne noire n'est pas humaine, c'est une chose, et donc on peut en s'en disposer, la vendre et faire ce qu'on veut, et c'est rentré dans les habitudes. Et donc aujourd'hui, les séquelles, c'est qu'une personne raciste qui ne sait même pas que bon voilà, elle est forcément raciste ou elle le fait volontairement, qui se retrouve policier, ben parce qu'il a un pouvoir discrétionnaire, peut interpeller, arrêter, contrôler n'importe qui dans la société, alors qu'en réalité, cette personne, ce policier laisse cours à ses pulsions racistes.
Ouais.
Mais il se cache derrière l'uniforme de protégé et servi qui lui donne une certaine immunité pour dire je suis dans l'exercice de mon métier. Donc ouais. Voilà.
Et j'ai reçu le frère Yebois là, qui a été interpellé en janvier à Montréal. C'est un avocat. Justement, on parlait de l'article 636 du Code de sécurité routière qui donne tellement de pouvoir discrétionnaire aux policiers. Dans le fond, l'article dit que les policiers peuvent contrôler quelqu'un au volant pour des questions de sécurité routière. Et donc, eux, ils inventent tous les arguments pour arrêter les Noirs. Ah, tu dépasses le feu, même quand ce n'est pas le cas. Tu as un téléphone au volant. Je dis, la marge du pouvoir discrétionnaire que cet article donne aux policiers, c'est immense. Et donc, quand tu parlais, justement, ça m'a rappelé cette histoire-là.
Dis, effectivement.
C'est comme si déjà le système est biaisé sur le plan racial, en donnant un tel pouvoir aux policiers, bah, on ne fait que perpétuer les inégalités raciales. Quoi. Donc, ce que tu dis là, c'est aujourd'hui, là, ce n'est pas hier. Ce que tu
dis aujourd'hui, justement. Effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Et on ne va pas rentrer dans les détails, mais dans la jurisprudence, on parle de la doctrine ancillaire. C'est-à-dire qu'à la base, ce ne sont même pas des pouvoirs qui ont été reconnus par la loi. Hein. La loi, c'est la doctrine, la jurisprudence qui, au fur et à mesure, a accordé beaucoup de pouvoirs aux policiers. Mais on peut revenir sur ces éléments-là une autre fois.
Mais moi, il nous reste 10 minutes. Là. Parmi les malaises dont tu parlais, c'est le racisme systémique au Québec. Là. C'est un malaise depuis 3 ou 4 ans. Là, on en parle. Les gens contestent encore. On l'a vu cette semaine. Là, on conteste. Il n'y a pas de racisme systémique au Québec. Du regard, toi qui as étudié cette question de justice raciale, là, comment tu vois tout ce débat et toute cette notion de racisme systémique? Parce que, bon, je ne suis pas spécialiste de la question, mais en t'écoutant, ça me rappelle un peu, je me dis, ça touche un peu au racisme systémique quand même, cette affaire-là. On comprendrait mieux, peut-être que les gens comprendraient mieux la notion de racisme systémique si on l'abordait aussi sous l'angle de la justice raciale ou de l'injustice raciale. Est-ce que tu peux faire le lien entre justice raciale et racisme systémique?
Non, mais le lien, il est direct. Le lien, il est direct. La question du racisme systémique, ou si j'utilise un terme qui fait plus consensus, c'est discrimination systémique, c'est une partie du problème que traite la justice raciale. C'est même pas le problème, parce que les gens disent racisme systémique, mais c'est pas tout le problème. Le problème, il est vraiment plus vaste. Ok. Et donc, la question du racisme systémique, c'est quoi? On donne l'impression qu'il n'y a pas de définition, mais en réalité, il y a une définition. Et la définition se retrouve dans le rapport de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse de Québec, qui dit, je cite, « Le racisme systémique, c'est la somme d'effets d'exclusion disproportionnés qui résultent de l'effet conjugué d'attitudes empreintes, de préjugés et de stéréotypes, souvent inconscientes et de politiques et de pratiques généralement adoptées sans tenir compte des caractéristiques des membres de groupes visés par l'interdiction de la discrimination. » Qu'est-ce que cela veut dire, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps? Ça veut dire tout simplement qu'en réalité, la justice, tous les acteurs de la justice, quand nous quittons la police en passant par la direction des poursuites jusqu'au juge, mais quand on a affaire à des personnes racisées, on doit être conscient qu'on est dans une société où il y a un effet d'exclusion de certaines communautés et que cet effet d'exclusion et d'oppression peut pousser les gens à sortir de la bonne voie. Donc, à créer les criminels. Les criminels dont on parle, c'est le système. Désolé de le dire, peut-être je vais faire des vagues, mais le système a sa part de responsabilité dans leur production. Les criminels, ils en existent et c'est le système qui les produit. Parce que quand on exclut les gens d'avoir accès, un accès social pour bien vivre, Vous voulez que les gens fassent quoi? Quand vous ciblez des gens qui restent dans des quartiers défavorisés, vous faites tout pour qu'ils restent là-bas. On poursuit les crimes de pauvres, les vols, et on oublie les crimes de riches. Mais on produit des criminels quelque part. Okay? Donc le racisme systémique, dans son effet d'exclusion, crée ça. Mais dans d'autres mots, tout simplement, c'est quoi le racisme systémique? Le racisme systémique, en réalité, ce n'est pas pour dire que tous les blancs sont des racistes. Ce que j'ai entendu un peu partout. Non, ça veut tout simplement dire que les lois et les mécanismes qui nous gouvernent, ok, et qui sont supposés garantir l'égalité, la diversité, l'inclusion, ben en réalité produisent l'effet contraire. Quelle exclusion? Les discriminations, ok. Mmh. C'est-à-dire que ces lois-là comportent des biais, des stéréotypes, produisent l'effet contraire. Que sont les discriminations? Et l'un de ces biais, c'est le pouvoir discrétionnaire instrumentalisé dont je vous ai parlé. C'est-à-dire qu'on peut abuser, okay, de l'usage du pouvoir discrétionnaire pour discriminer les gens. Donc, c'est le système et non une personne. Parce que prends l'exemple du policier, on va taper un peu sur les policiers aujourd'hui, désolé.
Ouais, tu nous parles de quelques formes de racisme systémique, là, que les gens puissent comprendre. Moi, depuis 2 ans que je fais l'émission, j'en parle tout le temps, mais c'est important de répéter. Donc, oui. Quelles sont les formes de racisme systémique qu'on peut rencontrer couramment, là?
Les formes. La première forme, c'est d'abord la négation. Il y a 3 formes dans la littérature. La première forme, c'est la négation, c'est-à-dire que vous avez des pays, des provinces qui nient l'existence du racisme systémique. Vous avez des gens qui vont sur les plateaux pour dire non, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de discrimination systémique. Et ils viennent avec des arguments qui existent dans la littérature depuis très longtemps. Okay? Donc, on crée, par exemple, on profite du flou qu'il y a, par exemple, autour de la liberté d'enseignement, liberté académique, liberté d'expression, pour dire que non, ce n'est pas une question de haine. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on nie l'existence du racisme systémique. Ou soit, on minorise son existence. On se dit, oui, le racisme existe, la discrimination systémique existe, mais il n'est pas aussi grave que vous le dites. Soyons sérieux, monsieur Mbaye. Hein, il n'est pas aussi grave que ça. On n'a pas besoin d'une loi d'État pour régler cette affaire. On n'a pas besoin de faire le suivi. Vous en faites trop. Okay? On minorise le problème. Ou soit tout simplement, la troisième forme, c'est l'ignorance. Okay? On est ignorant. Et donc, c'est dans cette perspective que vous verrez, et ça c'est souvent individuel, les amis qui, sans vouloir faire du mal, ils n'ont pas une mauvaise intention, mais prononcent le mot en haine pour désigner leur ami, qui ne tiennent pas compte de la charge historique qui vient avec le mot. Pour eux, c'est de l'amusement. Okay. Donc, pour un juriste criminaliste que je suis, l'intention est importante. Donc, ils n'ont pas une mauvaise intention, mais ça ne disculpe pas. Ce n'est pas un moyen de défense. C'est raciste pareil. Mm-hmm. Donc, voici ces 3 formes de racisme qui se manifestent. Donc, lorsque demain, vous verrez quelqu'un prendre position par rapport au racisme, essayez d'avoir ces cases-là et de situer la personne. Et
mais en te parlant, je vois certains chroniqueurs du Québec déjà. Hein. Quand tu dis déni, minorisation, je vois des chroniqueurs là, dont je ne sais pas le nom.
Bah oui.
Je vois des chroniqueurs, je vois des politiciens, justement. Et donc, parlant de politiciens, on a assisté, j'aimerais aborder avec toi la nomination de M. Benoît Charette là, comme ministre de la lutte contre le racisme. Tu as suivi un peu le débat qui a cours aujourd'hui, la semaine qui vient de passer là au Québec. J'aimerais voir avec toi là, quelle réflexion ça suscite en toi. Puis, dans quelle case on peut le classer, la forme de racisme systémique, où est-ce qu'on peut classer ce geste politique là, quand même? Au-delà de l'individu Charette, là, je pense que c'est un geste politique que le gouvernement a posé. Donc, pour ne pas personnaliser les débats, là, c'est un geste politique. Où est-ce qu'on peut le placer? Puis, quelle réflexion cela a suscité en toi?
Je suis content d'entendre la distinction que vous faites entre l'individu et le poste de ministre. Okay. Il ne faut pas qu'on rentre dans un combat contre les individus. Parce que en rentrant dans un combat contre les individus, c'est qu'on se contredit soi-même en disant que le racisme est systémique.
Oui, c'est vrai hein, ce que tu dis. Ouais. C'est vrai. Okay.
Donc, il faut faire attention. Donc, chez moi, on dit il ne faut pas reprocher à quelqu'un qui veut bien faire.
Okay.
Mais il faut juste lui apporter des conseils et les avis pour que cette personne puisse bien faire. Bon, on essaie de bien faire, ok. Il faut se féliciter qu'il y ait un ministère pour lutter contre le racisme, mais la manière pose problème. La manière pose problème parce que c'est comme si, je vous donne un exemple, c'est comme si demain, on créait un ministère de lutte contre la haine faite aux femmes et au sein, on nomme M. Alou ou M. Mbaye ou Jean Turcotte ministre.
Mmh.
Hein, de ce département. Ou un autre exemple, c'est comme si, vous savez, il y a un débat aujourd'hui sur les violences conjugales.
Oui, ici au Québec. Là, ouais.
Voilà, les violences faites aux femmes. Et donc, il y a une idée qui circule sur soit la création d'une juridiction spécialisée, hein, pour adresser ce genre de problème, ou une chambre qui sera reliée au palais de justice.
Ouais.
Donc, imaginez, on crée une chambre demain, OK, pour écouter les victimes d'agression sexuelle. Et on nomme un monsieur pour présider cette chambre-là. Ouais. Et son vice-président ou son adjoint est un monsieur. Vous trouvez ça normal? Donc, c'est-à-dire que le poste, c'est un poste sensible, c'est une question sensible qui doit être traitée avec doigté. Mmh. Le fait de nommer M. Benoît Charest à ce poste-là ne fait pas consensus. Et moi, je ne vais pas apprendre aux gens à faire de la politique. Moi, je suis qu'un chercheur.
Mmh.
Pour nommer à ce poste aussi sensible, ben la moindre des choses, c'était de faire un tour des forces qui militent et qui défendent les questions raciales pour demander, voici, nous avons sur la liste trois noms. Qu'est-ce que vous pensez de tel nom? Qu'est-ce que vous pensez de tel nom? Qu'est-ce que vous pensez de tel nom? Tout simplement.
Mmh.
Donc, on dégage une personne qui fait consensus parce que la politique, c'est une affaire de confiance.
Ouais, j'aime ton approche, là, j'aime cette approche, c'est-à-dire que la prérogative de nommer un ministre, ça relève du Premier ministre quand même, mais compte tenu de la sensibilité de l'enjeu et du fait qu'on avait consulté quelques-uns avant de pondre le rapport Carmat-Giraud de décembre, là, mm-hmm. ça aurait été bien quand même de dire, voilà, de se concerter avec quelques acteurs de cet enjeu-là, qui luttent contre cet enjeu-là, de dire, est-ce que cette personne peut faire l'affaire? Tu sais, parce que oui. C'est pas juste un enjeu politique, là, c'est un enjeu sociétal. Donc,
oui.
j'aime cette approche-là. Or, là, on vient avec quelqu'un qui n'était même pas dans le groupe de travail, c'est qui a pondu le rapport. Fait que moi, je n'ai pas vu une personne, en fait, du moins dans la communauté noire que je connais, tous les gens à qui j'ai parlé sont contre cette nomination.
Oui. Donc il y a une question de procédure qui est biaisée, qui pose problème. Et moi, c'est ce que je fais. Moi, dans mon travail, j'étudie l'équité procédurale.
Ouais. Okay.
Et donc, oui, moi, je veux la justice comme tout le monde, mais beaucoup oublient la procédure, le cheminement qui aboutit à cette justice-là. C'est le cheminement qui est important, c'est la procédure qui est importante.
Ouais.
Quand la procédure est biaisée, est mal faite, le résultat, il pose problème. Donc, on aurait pu faire ça dans un premier temps. Donc, je dis, moi, je ne suis pas politicien, je suis un petit chercheur. Les politiques vont faire ce travail-là. Donc, il fallait trouver un consensus sur la personne à désigner si on voulait faire quelque chose de sérieux. Maintenant, la dernière fois que j'ai fait ma communication lors de la conférence, je faisais savoir que la question de la discrimination systémique est une question trop importante qui enlève des vies pour qu'on en fasse un agenda politique ou une couleur politique. C'est un problème de société. C'est un problème de société, c'est-à-dire que c'est un problème essentiellement de personnes racisées, mais c'est aussi un problème de personnes blanches. Et donc, les alliés ont leur place. Les privilèges que les alliés ont, les alliés peuvent utiliser ces privilèges-là à chaque fois qu'on veut sortir de la bonne voie pour dire, écoutez, faites attention, là, la procédure, là, ça peut poser problème. Là.
Mm-hmm.
À moins qu'on soit juste dans une démarche de l'ordre et loi, et donc on s'en fout de l'adhésion des populations, et donc ça passe, la nomination. Mais si on s'inscrit dans une démarche de respect des droits de la personne, ça ne passe pas.
Mais j'ai...
ça rentre dans plusieurs des...
Case. Mais justement, ma question, c'est ça. Je me dis, j'ai juste entendu sur la question de la justice raciale et puis de la discrimination. Puis je me dis, du moment que le gouvernement n'a pas reconnu déjà que le racisme systémique à la base. Là. Il ne reconnaît pas tout ce qu'on vient de dire. Là. Depuis 30 minutes, on est en train de jaser. Là. C'est comme s'ils sont dans le déni. Ce n'est même pas la minorisation. Là. Ils sont vraiment dans le déni. Là. À ce moment-là, ça sert à quoi de nommer un ministre de lutte contre le racisme là? Il va lutter contre quel racisme, dans le fond?
Non, mais il y a, vous savez, la politique, c'est aussi les relations publiques. Hein?
Ouais, la com, hein? On est dans la com. C'est de la montrer qu'on fait quelque chose.
Effectivement, parce que même si moi, je n'aime pas l'expression minorité visible, parce que c'est un autre débat, mais c'est contradictoire quand tu dis minorité visible et que tu dis personne racisée. Même si on n'est pas, il n'y a pas beaucoup de personnes racisées au Canada, ben je pense quand même que on peut faire mieux. On peut faire mieux. Et aujourd'hui, on traite les gens comme des enfants. C'est-à-dire que, tu vois, on trompe un peu les enfants. C'est comme les enfants, on veut les tromper. Viens prendre des bonbons, ok. Ouais. Et on fait ça. On dit, ok, va à l'école, on va te payer. Non, c'est pas des enfants. C'est pas des enfants, les personnes racisées, c'est pas des enfants, c'est des humains, c'est pas des statistiques. Donc, soit on veut faire quelque chose et on le fait bien, soit on reste courageux et on assume. Mais une chance, c'est que, oui, on peut parler du Québec qui est dans le déni, pas tout le Québec, mais le système qui est dans le déni. On peut parler de la France qui est encore très loin, je vais faire un clin d'œil à nos amis français, mais on a la chance d'avoir que le fédéral est plus ouvert.
Ouais.
Le fédéral est plus ouvert sur la question. Le fédéral a reconnu.
Ils en parlent, au moins, là-bas, ils en parlent.
Voilà, qu'il existe du racisme systémique. Donc, au niveau du fédéral, c'est une question de quelle stratégie adopter pour aller de l'avant. Donc, on est rendu là. Mais quand on est dans le déni, je te disais, par exemple, lorsque vous êtes malade et que vous allez à l'hôpital, la première chose qu'on fait, c'est un diagnostic.
Ouais.
Lorsque le diagnostic il est faussé, et toutes les prescriptions qu'on vous fera seront fausses.
Tout à fait. Bon, merci beaucoup, Christian. Mais je veux te l'inviter sur cette question-là de l'éducation dans notre communauté, tout ça. Là, je veux t'inviter, je te promets. Parce que je suis en train de préparer une émission là-dessus.
Ce sera avec plaisir.
Parfait. Merci beaucoup, mon cher.
Merci beaucoup, merci à toi.
Parfait. Bonne journée à toi.
Merci, bye.
Salut.
Bye.
Alors, mesdames et messieurs, vous êtes bien sur CKIA 88.3 FM à l'émission Dignité Noire. Donc, je vous invite à une petite pause. Puis au retour, nous allons suivre la chronique Onde de culture de Vianney qui reçoit aujourd'hui Jimmy Kaba de l'orchestre mythique, du mythique orchestre congolais Zaiko Langalanga.
Vous écoutez le magazine Dignité Noire, présenté par Mbayaji Mbayriway.
Bonjour à toutes et à tous et merci de nous accueillir chez vous. Aujourd'hui à la rubrique, nous accueillons un artiste, un musicien. Et c'est pour ça que nous avons intitulé cette interview, cette rubrique, de la rumba congolaise à la musique jazz. Et le monsieur que nous accueillons, il va nous parler de lui, il va nous parler de sa musique, ce qu'il a fait hier et ce qu'il fait aujourd'hui. Il s'appelle Jimmy Yaba. Jimmy Yaba en ce moment se trouve à Bruxelles et en Belgique. Et voilà, il est résident, il vit là-bas. Et il était un grand musicien, un grand artiste, guitariste dans le groupe Zaiko Langalanga, l'un des groupes mythiques de la République démocratique du Congo. On le retrouve aujourd'hui parce qu'il a des choses à dire. Il va nous faire découvrir ce qu'il fait comme travail aujourd'hui. Jimmy Yaba, bonsoir.
Oui, bonsoir Viamé. Ouais, bonsoir.
Jimmy Yaba, il y a 20 ans, peut-être un peu plus, qu'on se connaît. Donc nos auditeurs comprendront que je vais te tutoyer parce qu'on se connaît, on a une relation assez profonde.
Bien sûr.
Voilà. Donc je vais te tutoyer, il ne faut pas que ça gêne certains. Jimmy Yaba, je t'ai connu guitariste dans le groupe Zaiko Langalanga. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui?
Non. Non, ça fait un moment, j'ai embrassé une carrière solo. J'ai repris en fait, je peux dire, mon ancien amour. C'est-à-dire, disons, une musique un peu plus je pourrais dire international. Ouais, je dis international parce que j'ai pas vraiment le mot approprié. Et c'est-à-dire une musique que je voudrais qu'elle soit vraiment compréhensible pour tout le monde. Même ceux qui ne comprennent pas le langage chinois, congolais, africain, qu'ils s'y retrouvent.
Est-ce que tu veux dire que ce que tu faisais avant, avec le groupe Zaiko Langa Langa, parce que tu étais guitariste, je pense, tu jouais à la guitare accompagnement?
C'est plutôt mi-solo.
Mi-solo, voilà. Ouais. Quand tu jouais à cette guitare mi-solo, est-ce que tu veux dire que cette musique que tu as fait avant n'était pas possible par un auditoire qui n'est pas congolais?
Oui et non. Parce qu'en fait, si je dis cela, parce que tu vois, on était au Canada. En 1989, on a eu une tournée là au Canada puis aux États-Unis. Et quand on est arrivé aux États-Unis, il y a quelqu'un qui, le public, quelqu'un est venu, qui a voulu. Je pense que c'était un musicien parce qu'il. Il avait quand même un langage. Si c'était pas un musicien, c'était peut-être un chroniqueur de musique. Je l'ai reconnu par son langage, en fait. Et il m'a posé une question. Il m'a dit, mais pourquoi vous avez repris plusieurs chansons dans ces concerts? Je lui ai dit, non, on n'a repris aucune chanson. En fait, son problème, c'était quoi? Parce que la musique rumba est essentiellement basé sur trois ou quatre accords.
Alors, c'est-à-dire, explique-nous, quatre accords, c'est-à-dire
En fait, dans la musique, il y a cette note. Hein. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et le huitième, c'est la répétition du do. En fait, dans le rumba, souvent, on prend trois accords là-dedans, ou quatre, souvent. Et c'est répétitif jusqu'à la fin. Et comme il a reconnu cette structure-là, et quand on faisait une deuxième chanson, il voyait qu'il y avait encore trois accords, ou quatre, et quand on faisait la quatrième chanson, il y avait encore quatre accords, et alors, pour lui, c'était comme si on faisait... c'était la même chanson en fait, tu vois, et on changeait juste de tonalité. Que cette chanson on l'a jouée sur le do, et la deuxième on l'a fait sur peut-être mi, et voilà, c'est ce que lui il a compris, mais en fait c'était pas ça. Voilà.
Et c'est cette, je dirais, la remarque de cette personne que tu as rencontrée un jour qui t'a amené aujourd'hui à faire ce que appelle musique internationale?
Non, c'est ça, parce que en fait ce projet je l'ai depuis des très 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 longues dates, plusieurs années. J'avais déjà ce projet en tête, même quand j'étais dans Zaiko, j'avais toujours ce projet là en tête. Je me disais je vais lancer en fait un album solo. Bon, j'avais pas le temps, tu vois, Zaiko, comme on tournait, on était tout le temps en tournée, et j'ai pas eu le temps de le faire. Et c'est pour cela que j'ai voulu, en tout cas, réaliser ce projet. Parce qu'en fait, au départ, avant de jouer dans Zaiko, j'étais dans des groupes à Kinshasa, à l'époque, enfin, quand j'étais encore adolescent. Dans ces années-là, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expatriés. Alors, dans les groupes où je jouais, on faisait des reprises. Des reprises des chansons de Aretha Franklin. Et nous appelions là-bas la musique de variété. Et voilà, c'est ce que je faisais, moi. James Brown, Royce, tout ça.
Que vous jouiez à l'époque dans des bars, en fait.
Voilà, dans des bars et dans des boîtes.
Des boîtes, ok.
Ouais, on mélangeait le R&B, le tournament blues, mm-hmm. et le jazz. Parce qu'on jouait aussi les West Montgomery, tu vois, des musiciens de jazz. On reprenait des standards de jazz. Et c'est ce que je faisais à longueur de journée, tout le temps, tout le temps. Et quand je suis arrivé dans Zaïko, mm-hmm. C'était carrément la rumba et le soukous, tu vois, le seben et tout. J'avais mis tout ça de côté. Alors, voilà, disons, dans ces temps-ci, je me suis dit, bon, voilà, je vais reprendre cette musique-là, mais en rajoutant maintenant l'esprit rumba, c'est-à-dire, je fais du jazz, mais dans mon jazz, j'ai toutes les notes de la rumba, voilà, j'ai jonglé dessus. Donc, je fais ce mélange-là.
Et j'informe nos auditeurs que d'ici la fin de l'émission, on va écouter un extrait, bien sûr, de cet album, puisque ça vient juste de sortir, Jimmy Abba. Y a combien de titres? Parle-nous-en un peu, là. Combien de titres et avec qui tu aurais collaboré pour cet album que je peux appeler, pour l'instant, sauf erreur de ma part, et je parle sous ton contrôle, que moi j'appelle du rumba jazz.
Mmh, voilà. Ouais. Bon, en fait, j'ai 9 titres. Et jusque-là, j'ai sorti un titre en single que les auditeurs pourront retrouver sur Spotify, Amazon et tout ça. Et l'album comme tel, ça sortira le mois prochain. Le mastering, ça se fait le mois prochain. Okay. Donc, ça sortira dans les 2 mois là, tout l'album. Et il y a un titre qu'ils vont écouter à la fin, comme tu as dit, en exclusivité, qui n'est pas encore sorti.
Merci.
Voilà.
Bon, on va écouter donc cet album de Jimmy Yaba, je rappelle pour ceux-là qui viennent de nous prendre en cours, que nous recevons aujourd'hui dans Ondes de Culture, votre rubrique de tous les lundis, nous passons aux 2 semaines. Nous recevons donc Jimmy Yaba, guitariste, musicien de rumba aujourd'hui, qui s'investit dans la musique jazz, et son album vient de sortir. Le titre de l'album, Jimmy?
Dreams of My Soul.
C'est le rêve de ton âme.
Voilà. On m'a plusieurs fois posé cette question-là. Pourquoi,
pourquoi le titre en anglais? Je vais faire pareil comme les autres. Pourquoi?
Bon, en fait, j'étais juste en train d'exprimer ce que je viens de dire. Ce rêve d'enfance qui était là. Et comme c'est du jazz, et le jazz nous vient de l'Amérique... je me suis dit, bon, j'ai déjà la musique africaine qui est là, qui s'exprime en tant que patrimoine africain, et on peut être en anglais comme ça. Et, tu vois, c'est un mélange en fait. C'est dans cet esprit-là de mélange que je me suis dit, bon voilà, je vais titrer ça en anglais.
Est-ce que c'est pour mieux vendre? C'est pour mieux se faire connaître à l'étranger, puisque tu parlais de musique internationale tout à l'heure.
Ah, bon, il y a aussi cet esprit-là, en fait, l'anglais étant une langue commerciale, dans cet esprit-là aussi. Mais bon, il y a des titres et des chansons qui sont à Lingala, qui sont dans des langues, des dialectes congolais. Voilà, c'est vraiment un mélange en fait, c'est tout un mélange.
Album très éclectique de Jimmy Yaba, Dream of My Soul, c'est ça?
C'est bien cela, oui.
Ok, qui sort dans les mois qui viennent, là, disons dans peut-être 2 ou 3 mois, et nous aurons ce soir une exclusivité avec un titre. Jimmy Yaba, est-ce que il y a eu des collaborations avec des chanteurs? Tu es guitariste, tu es instrumentiste, je veux dire. Est-ce qu'il y a eu des chanteurs, il y a des gens qui ont posé leur voix dans cet album?
Non, en fait, l'album est essentiellement instrumental. Mm-hmm. Il n'y a pas de titres chantés dedans. Peut-être dans le prochain, mm-hmm. mais pour celui-ci, c'est exclusivement instrumental. Et j'ai collaboré, j'ai eu deux collaborations en fait, trois même. Il y a pour les sax, les cuivres, il y a Jimmy Sax, c'est un ami camerounais qui vit à Paris ici avec moi, parce qu'en fait je ne suis pas à Bruxelles, je suis à Paris.
Ah, ok. on apprend, c'est une information.
Voilà. Il y a Jimmy qui a collaboré avec moi, Jimmy Sax. Il y a aussi Manjeku.
Dizzy?
Non, Manjeku, le batteur, qui est avec moi dans Zaiko.
Ok.
Qu'on appelait Ya Manjeku, voilà. Là, je ne vais pas encore le citer, les troisièmes, parce qu'il va faire plutôt les percus. Il n'a pas encore fait. Et avec la Covid, tout le monde, voilà, si ouais. Ça bouge partout, il y a des rendez-vous qui manquent et tout et tout. Ouais, parce que c'est le seul qui
manque
qui reste, voilà.
Et là, tu m'as tendu la perche, Jimmy, puisque tu parles de Covid. Nous vivons cette pandémie depuis l'année dernière. Et comment on travaille un album comme ça, comme ce que tu es en train de produire, de réaliser avec cette pandémie? Ça se passe comment?
Ouais, heureusement, j'ai quand même une petite structure chez moi. Voilà, quand je suis tout seul, je peux faire mes guitares, je peux faire mes batteries, je peux avancer dans ce sens-là. Disons, c'est un mal pour un bien, quelquefois. Parce qu'en fait, avec ça, j'ai vraiment le temps de me concentrer sur mes titres, quoi. J'ai pu avancer un peu plus rapidement, d'ailleurs. Et là, j'attends, en fait, que ça se calme, juste pour avoir mon percussionniste. Et donc, j'attends juste ces petits arrangements-là pour les dernières mains.
Jimmy Abba, du soukous ou de la rumba congolaise à la musique jazz, je ne sais pas si on peut le dire aujourd'hui, il n'y a qu'un pas, ou bien... Il y a des choses qu'il faut connaître, qu'il faut savoir avant de faire cette, je dirais, conversion, reconversion, quitter la rumba pour la musique jazz.
Bon, je pense que c'est une question de... pour de la musique. La musique telle que je la conçois, c'est pas que de la rumba, la salsa... le rhythm and blues ou la musique indienne ou coréenne ou chinoise. Pour moi, en fait, la musique, c'est la musique. De toute façon, tout ce que nous apprenons, c'est la même chose. On fait les mêmes accords, on fait les mêmes tempos, c'est la même chose.
Il y a des accords que tu utilises dans la musique jazz que nous avons dans la musique rumba congolaise, ou bien c'est tout à fait différent?
Je peux dire qu'il y a peut-être quelques petites différences. Ouais, quelques petites différences. Comme dans la rumba, on prend peut-être, quand on doit plaquer un accord, on plaque l'accord avec les six cordes et tout ça. Alors que dans le jazz, il y a plutôt une technique des trois notes sur un accord. Et puis, le jazz, des fois, joue sur des dissonances que la rumba... Pour la rumba, ça fait mal aux oreilles.
Est-ce que ça t'a pris une sorte d'apprentissage, une formation, ou bien tu as travaillé toi-même en autodidacte?
Ouais, je suis autodidacte. Ouais. En fait, depuis, comme j'ai dit là, depuis l'enfance, depuis l'adolescence, j'ai écouté. J'avais beaucoup écouté, surtout Wes Montgomery. Je l'ai beaucoup écouté et je l'ai beaucoup interprété. Et d'ailleurs, c'est par le jazz que j'ai commencé à avoir cette petite différence-là d'association des accords ou des cheminements. Ou alors des compositions de mélodies, comment ça se fait dans le jazz et dans la rumba. Et donc j'avais fait tout cela en écoutant, c'est par l'oreille. Et après, bon, quand je suis allé à l'académie, Bon, dans l'académie, c'est pas comme à l'INA. On a l'académie, en fait, l'école des arts hein, mm-hmm. à Kinshasa, mm-hmm. parce que c'est là où j'étais. Et bon, on n'apprend pas la musique comme telle, mais on apprenait la musicologie. C'est-à-dire, on apprenait l'histoire de la musique et puis la quelques techniques de la musique classique. Mm-hmm. Et par là, j'ai pu, apprendre à lire sur les portées, sur, tu vois, un peu de solfège et tout ça. Et c'est ça qui m'a appris, en fait, à aller dans les détails de la rumba et des autres musiques, en fait. Aujourd'hui, tu vois, la technologie évolue. Hein. Y a des logiciels aujourd'hui, même que pas écrire, tu vas jouer et puis... l'ordinateur, il te fait tout ça, quoi. Mm-hmm. Un peu comme la traduction, tu tapes ton texte en anglais et ça sort en français ou en chinois. Et c'est pareil. Aujourd'hui, je peux jouer, je mets ma guitare sur mon ordinateur, il y a des logiciels, bon, je vais pas citer pour des problèmes de pub, peut-être, mais il y a des logiciels.
Tu peux citer, c'est pas
ouais, comme des Sibelius, par exemple. Mm-hmm. Ouais, ça... Tu joues et puis il t'écrit. Et même logique, il te fait ça. Et tu joues et puis, bon, il y a dans une petite fenêtre comme ça, et un petit bouton, tu cliques, et puis tu as tout, quoi. Tout ça sort et puis tu l'imprimes. Tu donnes à un musicien, il va lire, voilà.
Jimmy Abba, ton premier album Dream of My Soul qui va sortir, tu as connu la collaboration de Jimmy Sachs. Oui, d'autres musiciens qui ne sont pas de la République démocratique du Congo. Est-ce que le prochain, on pourra voir un peu plus des musiciens congolais, ceux avec qui tu as travaillé il y a encore quelques années?
Ah oui, certainement.
C'est la deuxième fois que nous parlons de la musique jazz. Nous avons parlé du festival de jazz de Port-au-Prince avec Milena Sanders, c'était au mois de décembre. Et là, nous revenons donc avec Jimmy Iyaba, artiste musicien de son état, qui vient de nous parler de son album et surtout de comment il transitionne de la rumba congolaise à la musique djembe. C'est tout pour moi dans Onde Culture. À bientôt.
Alors, mesdames et messieurs, vous venez de suivre donc l'onde de culture présentée par Vianney qui nous a fait découvrir les exclusivités de cet artiste congolais, ancien guitariste de l'orchestre Zaiko Langalanga. Ben, c'est tout pour nous ce soir, c'est tout pour moi, c'est tout pour Vianney. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dimanche, lundi prochain. Mon nom est Mbaye. Alors, d'ici lundi prochain, portez-vous bien car chaque jour est une vie. Ciao.
Pour nous joindre, dignité@ckiafm.org.
Spread your wings. One stop Caribbean cuisine for the best in Caribbean dishes. Come visit us and enjoy our specialties such as oxtail, jerk chicken, roti, and many more. Ask about our $8 lunch special on any chicken plates from Tuesdays to Fridays, 11 a.m. to 2 p.m. Also try our famous crispy fried chicken dipped in our special barbecue sauce. You can order online through your preferred restaurant apps or call 514-365-3636 or enjoy a 10% discount on all in-store pickup. This don't apply to promotions. We are located at 334 Saint-Jacques in Lachine. Visit us today. One stop Caribbean cuisine. Chef X, new location.
Blessing up a flow like a river. Blessing up a flow like a river.
Êtes-vous locataire à Montréal? Avez-vous des questions sur vos droits? Votre comité logement peut vous aider. Pour trouver le comité logement pour votre quartier ou pour plus de ressources, visitez le www.rclalq.qc.ca.
Learned from COVID-19 is that something small can spread quickly, like a ripple. If enough of us do our part by getting vaccinated, we can start a wave. A wave of Canadians helping each other return to the people and places we love. We can all help by getting vaccinated. Learn more at canada.ca/COVID-vaccine. A message from the Government of Canada.
Can music give you what you need? Does sound have the power to process complex emotions? Can placebos help? How are you today?
I'm Erin.
And I'm Julia.
How are you
And
today?
We're here to offer a kind of help with Audio Placebo Plaza. For 1 week, we offer everyday people customized positive messages, audio creations, healing frequencies, binaural beads, ASMR, and more. From June 11th to 16th at 6835 Rue Saint-Hubert and on undefined.fm.
This project is produced by Undefined Radio and co-presented by Sony Pearl Popolo and CKUT.
Welcome to Queer Core on CKUT 90.3 FM. Montreal's only queer culture show that bridges any divide between queer sex and radical queer politics. Due to the fabulous nature of queer experience,